Cette semaine, nous vous proposons à l'écoute tous les jours Mémoire de Buchenwald, une série en 6 épisodes de 20 minutes par Claire Latchag du collectif Transmission, réalisée avec Pauline Blanchet et ses élèves du lycée Utrio de Stain dans le 93. Mémoire de Buchenwald raconte comment ces adolescents sont partis sur les traces des descendants et descendantes de survivants des camps de Buchenwald et de Ravensbrück pour les interroger sur la transmission de cette histoire au sein de leur famille quand ils étaient eux-mêmes enfants ou adolescents. Comment transmettre la mémoire de la déportation après que les derniers survivants sont disparus ? Témoignages et making-of s'entrelacent et laissent entendre les élèves qui s'approprient l'outil radiophonique et deviennent à leur tour passeurs. Leur quête les mènera sur les traces de Michel Boitel, résistant oublié de l'histoire, qui a sauvé Stéphane Hessel en lui donnant son identité. Il est temps de lui rendre hommage. Épisode 3. Transmettre la mémoire.
Après la visite du mémorial, on est allé visiter le camp et malheureusement, nous n'avons pas eu le droit d'enregistrer des sons.
Et du coup, le lendemain, quand on a repris le car, c'est à ce moment-là qu'on a pu parler de notre ressenti.
Au moment où on commence à en parler, justement, on voit de la fumée qui sort du car.
Mais en fait, c'est le conducteur de bus, il a crié d'un coup « Sortez !» Et après, on voit qu'il y a de la fumée. C'est pour ça qu'on entend des rires dans le fond quand on est interrogé.
La partie qui m'a le plus marqué, c'est l'entrée du camp où les prisonniers ils étaient devant quand il y avait l'appel pendant 6 heures dans la journée. Ils restaient dans le froid, ils ne pouvaient pas se réchauffer, ils ne pouvaient pas s'enfuir. Et même s'ils étaient tous là comme une armée, ils étaient désarmés en fait face aux SS.
Moi, c'était au crématorium parce qu'on voyait où ils brûlaient les personnes et tout.
En fait, nous, on marche juste, on passe devant, on écoute ce que le guide nous disait dessus, mais il y a vraiment des gens qui sont morts et qui ont été brûlés ici. Et il a dit que leurs cendres, ils étaient mélangés avec les cendres des autres. Même si c'est les cendres des gens de ta famille à la fin que tu viens de récupérer, après que Buchenwald il a été libéré, c'est pas vraiment les cendres des personnes de ta famille, c'est plusieurs personnes mélangées, du coup.
Après le crématoire, il y avait une photo de morts entassés les uns sur les autres. Ça m'a marqué.
Mémoire de Buchenwald, un documentaire des terminales germanistes du lycée Maurice Utrillo à Stain, accompagné de Pauline Blanchet et Claire Latzag.
Et le fait que les jeunes rentraient dans la SS très jeunes, 15, 16, 17 ans, et ça m'avait marqué aussi.
Épisode 3. Transmettre la mémoire.
Parfois, la transmission directe de l'expérience du camp a été difficile au sein des familles, voire impossible.
Malgré cela, de nombreux descendants et descendantes des déportés travaillent aujourd'hui à conserver et transmettre cette mémoire.
Alors, où est le plan ? Voilà. Alors ça, c'est le plan vu par un déporté qui était au petit camp. Donc, vous voyez les baraquements, ça, c'est les casernes SS et ça, c'est les usines.
Dominique Orlovski,
d'accord,
membre de l'association française Buchenwald, Dora et Commando, est directrice de l'ouvrage Buchenwald par ses témoins.
Oui, ça, c'est des documents que j'emmène avec moi quand je vais dans des établissements scolaires. Et je me sers des dessins de ces déportés pour raconter Buchenwald. Je n'y étais pas. Bien sûr, j'ai beaucoup lu, beaucoup étudié. Mais pour montrer aux gens, je tire ma légitimité de ces dessins. Alors le camp a été construit par des déportés, hein, évidemment. Hein, pour les SS qui vont aller salir leurs mains. Il a été construit au-dessus de cette très jolie forêt qui est au-dessus de la belle ville de Weimar, qui est une ville absolument magnifique. Et dans cette forêt, Goethe venait sous un chêne. Et les Allemands et SS sont très sensibles à ce genre de choses. Et donc, ils ont construit le camp de Buchenwald autour de l'arbre de Goethe. Alors, dans la plupart des camps, on voit le panneau « Arbeit macht frei ». Je ne parle pas l'allemand. Ce qui signifie « le travail rend libre ». Vous avez ça à Auschwitz, vous avez ça à Dachau, vous avez ça... Eh bien, pas à Buchenwald. À Buchenwald, vous avez Jedem da seine, ça je sais le dire, qui veut dire à chacun son dû. Ça n'est lisible que de l'intérieur du camp. Ça veut dire que celui qui est à l'intérieur du camp, il sait qu'il est là, il a mérité. D'accord ? Et donc, tous les jours, les déportés, ils voient ça. Et c'est un déporté qui était un artiste à qui on a demandé de faire ça et il l'a fait dans l'esprit du Bauhaus. Donc, en plus, c'est une œuvre d'art.
Est-ce que vous êtes déjà rendu à Buchenwald ?
Oui, de très, très nombreuses fois.
Dominique Durand, ancien président de l'Association française ainsi que du Comité international, Buchenwald Dora et Commando.
La première fois, j'étais adolescent. J'allais dans des colonies de vacances organisées par les associations d'anciens déportés. J'ai fait une visite de Buchenwald et j'ai fait, à peu près dans ces âges-là, une visite d'Auschwitz. Auschwitz, c'est très saisissant. Buchenwald, pas du tout. Quand les Soviétiques sont partis, en 1949, ils ont rasé le camp, en laissant quand même quelques traces. Et donc, c'est le camp qu'on voit à l'heure actuelle. Voilà, donc je suis allé plusieurs fois à Buchenwald et j'y suis allé même par souci d'histoire. Ça m'intéressait d'apprendre plus de choses sur Buchenwald. Donc, la déportation, ce n'est pas mon père qui me l'a apprise. Mais j'ai baigné dans un climat où c'était quelque chose de normal. Voilà. Et c'est pour ça que, donc, très tardivement, 5 ans avant la disparition de mon père, je lui ai dit, écoute, tu devrais écrire tes mémoires. Il a écrit des mémoires très prudent, très raisonné. Qu'est-ce qu'il pouvait dire pour les jeunes générations? Et la déportation n'est qu'un tout petit bout là-dedans. N'oubliez pas qu'il avait été déporté à 21 ans, donc il était jeune. Il a eu le temps de refaire sa vie. Ce n'est pas le cas de tous les déportés.
Je ne raconterai pas non plus ce que furent mes premières heures au camp, dont j'appris bientôt qu'il s'appelait Buchenwald. Buchenwald, cela signifiait la forêt de hêtres. Entre la gare où nous avions débarqué et le camp proprement dit, il y avait effectivement des arbres. Mais je n'étais pas en mesure d'en déterminer l'espèce. J'avais soif. Le mot « soif » ne veut rien dire dans ce cas-là. Il faudrait en inventer un autre, au sens exceptionnel et démoniaque. Pierre Durand, Ite Missa Est.
Voilà des premiers souvenirs que raconte mon père dans son livre. C'est donc vous faites ce voyage pénible, serré, comme ça.
Tous les déportés que j'ai pu rencontrer ont tous dit que ce voyage, c'était vraiment la mise en condition de l'enfer.
Vous pouvez pas boire, vous pouvez pas pisser, vous mangez pas.
Donc il fait froid dans ces wagons, ces wagons à bestiaux, ils sont entassés.
Ça dure 2 jours dans le train, serré comme ça, comme des harengs ou des sardines dans une boîte. Hein.
Le train s'arrête de temps en temps, mais assez peu.
Avec des gens donc, qui supportent pas, qui meurent ou qui deviennent fous.
Et on les fait descendre du wagon en sautant. Ils tombent dans la neige et il y a les chiens qui les accueillent, et qui aboient, qui mordent, les coups de bâton. Et
les nazis qui gueulent, qui vous font sortir des wagons. Enfin, vous...
Et ils arrivent à Buchenwald directement. Alors, ceux qui sont arrivés plus tôt, en juin par exemple, il n'y avait pas de gare à ce moment-là à Buchenwald. Ceux-là montaient à pied de Weimar, sous les coups des SS et les quolibets et autres de la population.
Et puis là, on va vous plonger dans un bain de grésil et on va vous raser totalement, totalement. C'est pareil pour les femmes. Et vous êtes donc à poil face à les gens qui ont voyagé avec vous. Et vous ne les reconnaissez plus. Le premier moyen pour déstabiliser un homme, c'est de foutre à poil.
Près du camp, vraiment même pas, on va dire peut-être 10, 15, maximum 20 mètres, il y avait comme un jardin zoologique où il y avait différents animaux comme des ours ou autres. Du coup, il y avait les familles des SS qui venaient passer un bon temps dans ce jardin, qui vivaient leur vie comme si de rien n'était, comme si c'était banal.
C'était pas que les SS qui allaient visiter le zoo, c'était aussi les habitants de Weimar.
Thank you.
les prisonniers, ils travaillaient pour une entreprise dans la ville. Et les habitants, carrément, ils dénonçaient les prisonniers qui voulaient s'échapper.
Le tout compris, ça fait 400 hectares. C'est immense, le camp. Et vous voyez bien qu'on est sur une colline. Et moi, je me dis toujours comment les Allemands qui habitaient autour ne pouvaient pas voir ça. C'est absolument impossible. Et puis l'odeur. Parce que l'odeur de chair brûlée, c'est quand même très, très important. Donc le crématoire, là où on brûlait les corps, ce truc-là fonctionnait 24 heures sur 24. Et en particulier, ça éloignait les oiseaux. Et il y a un déporté qui a écrit un livre qui s'appelle « Buchenwald, la colline sans oiseaux ».
Au-dessus d'un bâtiment, à droite de l'entrée du camp, un épais nuage de fumée noire sortait d'une large cheminée. Quand nous fûmes un certain nombre, une centaine peut-être, un officier SS qui tenait une badine nous dit « À Buchenwald, on entre par ici et on sort par là ». Pierre Durin, IT Missa Est.
Et dans le musée, est-ce qu'il y a un objet ou une photo qui t'a particulièrement marqué ?
Ce qui m'a marqué, c'est les habits des anciens prisonniers, où il y a encore les traces du temps, avec du sang.
Elle s'appelait Simone, c'était une Française. On voyait son manteau qui était recousu avec des petits morceaux qui n'avaient rien à voir avec les tissus de base. Elle avait des chaussures, c'était en bois, avec du vieux cuir, c'était tout déchiré. Et donc l'hiver en Allemagne, c'est très très froid. Et elle travaillait dans ces conditions-là, c'est horrible quoi.
Les SS, pour s'amuser, ils découpaient la tête des prisonniers et grâce à des éléments chimiques, ils réduisaient la taille de leur tête et ils les accrochaient chez eux ou ils les exposaient sur leur cheminée, sur leurs meubles en tant que décoration. Et avec leur peau, ils faisaient des abat-jours. Au musée, il y a des photos de cela et il n'y a pas les vraies têtes ni les vrais corps parce qu'il y a justement des gens qui venaient que pour ça et c'était la curiosité morbide.
On voyait tous les objets qui ont été confisqués et qui ont été retrouvés des détenus à Buchenwald. Et par exemple, on y retrouvait des jouets, on a retrouvé des beaux pendentifs.
C'est pas forcément quelque chose de très important, mais j'avais vu un petit médaillon en forme de cœur où il y avait écrit le prénom de l'amante d'un des détenus. Et ça m'avait ému un peu.
Il y en a, ils ont réussi à garder les signes religieux. Ils ont eu le courage de le garder quand même. Enfin, ils auraient pu se faire attraper à n'importe quel moment.
Bien entendu, tout ça, c'est clandestin.
Dominique Orlovski.
Dans le camp de concentration, il y a eu aussi des concours de poésie. Ils ont fait des pièces de théâtre. Dans les détenus, il y avait des musiciens. Et le soir, ils donnaient des concerts. Clandestins. Alors ça, mon père me l'a raconté. Il était tout jeune, hein. Il avait une vingtaine d'années. Il y avait avec lui des profs, des gens qui avaient de la culture, des gens, il y avait le directeur, par exemple, de la Bibliothèque nationale de France, Julien Quin. Il y avait d'autres, il y avait Maspero, il y avait enfin un certain nombre de gens très cultivés, qui avaient beaucoup de connaissances. Eh bien, ces gens-là donnaient des cours aux plus jeunes. Et mon père m'expliquait, eh bien, c'est au camp de concentration de Buchenwald qu'il a appris les étoiles dans le ciel, la grande ours, la petite ours, etc., etc. Et mon copain Bertrand, qui est le préfacier de mon livre, il raconte que dans les latrines du petit camp, eh bien, il y avait une chorale. Pourquoi ? Vous imaginez bien qu'aucun SS va aller mettre ses pieds dans les latrines du petit camp, avec une odeur pestilentielle, avec les risques de maladie, etc. Et lui, il a appris le Messie de Handel dans les latrines du petit camp. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'un camp de concentration en étant que dans l'alarme à l'œil et dire « Ah, les pauvres gars, gna gna ». Ça ne peut pas être ça, un camp de concentration. Ça n'est pas que ça. C'est même tout le reste qui est important. C'est-à-dire toute la vie souterraine qui existe. Quand on met des résistants de tout pays, de toute nationalité dans un camp de concentration, évidemment, la première idée qu'ils ont, c'est de résister.
Buchenwald est le seul camp de concentration où les détenus ont eu une organisation résistante clandestine transnationale.
Georges Beauchemin a reconstitué l'histoire militaire du camp de Buchenwald dans son livre « Le triomphe de l'entendement ». Il y raconte le déroulé précis de l'insurrection organisée par les détenus eux-mêmes.
Ils avaient constitué une armée transnationale, secrète, qui avait plus de 800 combattants, où ils ont saboté tout ce que les Allemands essayaient de leur faire faire. Ils avaient volé des armes, ils avaient assemblé des armes, ils avaient volé des mines, ils avaient constitué des équipes, ils avaient un plan. Ils ont même réussi à faire bombarder l'usine par les Américains, ce qui a retardé énormément le programme des V2 qui allait frapper Londres. Et à la fin, ils attendaient que les Américains arrivent assez près du camp pour donner l'assaut de l'intérieur du camp contre les SS et les prendre en total entre eux et les Américains, ce qu'ils ont réussi à faire. Et ils ont libéré tout le restant du camp pendant que les troupes américaines sont passées au travers du camp, mais pas là où il y avait les détenus, là où il y avait la cité SS. Si bien que l'officier américain qui était à la tête ne s'est pas rendu compte qu'il libérait Buchenwald. Il s'est rendu compte seulement 2 semaines plus tard qu'il s'agissait du camp de concentration de Buchenwald. Donc c'est une histoire. C'est unique.
Notre petite armée clandestine là, s'est libérée vers 11h du matin. Et puis les Américains sont rentrés dans le camp à 4h de l'après-midi. Donc ils étaient à côté. Ils ont sorti leurs armes, ils ont eu le courage de monter à l'assaut des Miradors. Et je trouve que c'est extrêmement courageux, au péril de leur vie, et dans des conditions où ils avaient tous perdu 30 kilos, ils avaient tous pas mangé pendant des mois, et étaient victimes de sévices nombreux.
Dans la police, on fait des enquêtes.
Georges Beauchemin.
Et donc, on se retrouve avec un paquet de témoignages et on doit refaire une reconstitution de l'événement pour être capable de déterminer dans ces témoignages quels sont ceux qui sont concordants et ceux qui... Non, ça ne va pas. Il n'a pas pu voir ce qu'il dit qu'il a vu. À force de lire les témoignages de Buchenwald sur l'insurrection, je me suis aperçu que c'était exactement le même phénomène. On ne peut pas prendre un témoignage et raconter toute l'histoire de la journée avec ça. Ça a été une bataille qui a mobilisé plus de 16 000 soldats, militaires, autant chez les SS que chez les Américains que chez les insurgés, sur lesquels il y avait 20 000 témoins qui étaient enfermés dans des blocs, qui ne voyaient pas ce qui se passait. Donc il faut relire tous les témoignages, un par un, et les remettre dans le cadre chronologique et dire « lui, il était là, donc il ne pouvait voir que cet angle de vue ». Donc, dans son témoignage, la seule chose qu'on peut rapporter qui soit juste, c'est qu'il a vu 4 chars américains passer dans cette direction et non pas dans cette direction, et etc. Et donc, on reconstruit toute la trame comme si c'était une enquête de police. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le triomphe de l'entendement.
Nous, nous avons une vision globale.
Dominique Orlovski.
C'est-à-dire qu'en même temps, moi, je suis dans le petit camp, je suis dans le grand camp. Un déporté, il a la vision que de ce qu'il a vécu, lui. Donc, c'est vrai que nous, on a une vision un peu plus large. Mais, et c'est là le gros point, c'est qu'on n'est pas légitime. On n'y a pas été. On n'a pas ressenti dans notre chair tout ce qu'ils ont ressenti. Et les déportés disaient, ce que nous avons vécu, c'est indicible. Et nous, on le dit. Et c'est là où c'est... Même si on sait beaucoup de choses, comme les historiens, mais les historiens sont historiens. Nous, on est seulement descendants d'eux. On ne sera jamais à la hauteur de nos parents.
Vous l'êtes plus que nous?
Mais non. Mais non, parce que moi, je ne fais que vous transmettre ce que vous allez pouvoir transmettre vous après. Mais moi, qu'est-ce que je suis, moi? Je ne suis qu'un passeur de mémoire. Vous, une fois que vous aurez fait le même travail que moi, d'apprendre, vous pourrez faire la même chose.
Vous êtes déjà rendu à Buchenwald?
Pas encore. Je ne suis pas allé.
Georges Beauchemin.
Mais j'ai regardé au moins 15 000 photos de Buchenwald. J'ai étudié au moins 30 plans de Buchenwald. J'ai lu 300 témoignages. J'ai lu les rapports américains, les rapports allemands. Donc, je me retrouve un peu dans la situation où j'étais quand de mon bureau, on m'expliquait une prise d'otage et qu'avant de m'y rendre, il fallait que je comprenne les lieux où j'allais mettre les pieds. Maintenant que j'ai cette vue d'ensemble, là, je vais y aller. Parce que là, j'ai des choses précises que je veux aller vérifier. Ben, je vais aller voir la souche du chêne de Goethe. Vous savez, connaissez l'histoire du chêne de Goethe à Buchenwald? Oui? Non?
Alors, ça s'appelle le chêne de Goethe parce que, d'après la légende, Goethe se promenait pour avoir l'inspiration pour ses poèmes. Et ce chêne-là, il représentait l'espoir pour les déportés car le jour où le chêne tombera ou mourra, eh ben, Hitler perdra le pouvoir et les déportés seront libres.
Et quand il y a eu le bombardement des usines en août 1944, l'arbre a reçu une flamèche et a brûlé. Mais la souche est toujours là. Et alors, ça avait bien plaisir aux déportés, cette histoire. Non seulement, avec leur radio clandestine, ils apprennent aussi la libération de Paris. Et l'arbre de Goethe qui s'effondre, ah, tout l'espoir est permis. Voilà.
La suite de notre documentaire, Mémoire de Buchenwald, au prochain épisode.
C'était Mémoire de Buchenwald,
un documentaire sonore réalisé par Pauline Blanchet
et Claire Latsag.
Prise de son et interview,
Sana Abderid,
Aya Ahmad,
Dikra Arstim,
Nora Bengarali,
Amina Falkeita,
Tony Gonsalves,
Abdallah Amouda,
Bastien Card,
Grace Ligue,
Imen Louzi,
Alexa Minich,
Ahmed Mohamed,
Andrei Negutsoyou,
Bridget Pembelen Sigani,
Kemaline Ramachandran,
Sandhya Ramamurti,
Marwa Smaili,
Tuveraka Vineswaran
et Louis Weng. Mixage, Étienne Gracianet.
La suite demain dans le prochain épisode du côté des Allemands.